Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le jour J, comme Jeanne Hayak, le patron d'Air France, joue son poste à l'occasion des résultats du référendum organisé dans l'entreprise. Pour ou contre les propositions salariales de la direction, la grève entre aujourd'hui dans son 13e jour avec déjà 300 millions d'euros de pertes. À la SNCF, là c'est le 14e jour de grève. Situation complètement bloquée en attendant la réunion prévue lundi prochain à Matignon. J'ai détruit ta vie, moment d'émotion hier au procès de l'agresseur de Marin, 20 ans, qui avait été laissé pour mort il y a 2 ans à Lyon. À la barre, la victime et son agresseur se sont parlé pour la première fois. Il s'est promis de faire la fête à Macron demain pour célébrer à sa façon l'anniversaire de l'élection du président. Mais avant cela, il est votre invité dans 20 minutes.
Le député de la France Insoumise de la Somme, François Ruffin, dans le grand entretien du 7-9, intervenait au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter.
Dans ce journal également, Donald Trump attendu aujourd'hui devant le congrès de la NRA, le lobby des armes à feu aux États-Unis. Un accord en vue sur le reste à charge pour les prothèses dentaires. Vous paierez moins, mais pas tout de suite, nous dira Véronique Julia. Et puis Marseille, sur son petit nuage, l'OM est en finale de la Ligue Europa. Mais d'abord, vous reprendrez bien un petit peu de Mars. Cela faisait 6 ans que la NASA n'avait plus lancé la moindre sonde à l'assaut de la planète rouge et de ses mystères. Ce sera fait demain et c'est une technologie française qui a été retenue pour cette mission. Un petit sismomètre qui sera chargé d'écouter les bruits de la planète Mars et ses tremblements de terre. C'est peut-être comme cela, Clarisse Mata, qu'on comprendra comment les planètes se sont formées.
Écouter battre le cœur de Mars, c'est l'objectif de la mission InSight. InSight est l'atterrisseur qui transporte CEIS, le petit sismomètre qui se posera sur Mars pour 2 ans. CEIS, à la taille d'une grosse casserole, ne pèse que 3 kilos. Et pourtant, grâce à lui, Francis Rocard, responsable de la mission au CNES, espère pénétrer les entrailles de la planète rouge.
Le but, c'est fondamentalement de passer à la troisième dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on étudie Mars en surface, on s'intéresse à l'eau, le carbone, la vie, tout ça c'est très bien. Mais il nous manque la troisième dimension. La troisième dimension, c'est quel est le bilan de Mars? Comment Mars est formé? Comment Mars a évolué?
Le sismomètre enregistrera une 50aine de séismes par an. Les 10 plus forts donneront des informations aux scientifiques sur l'intérieur de Mars. Car aujourd'hui, on ne sait toujours pas si elle a un noyau liquide ou solide. On ne connaît pas l'épaisseur de sa croûte. Comme l'explique Philippe Lognonnet, responsable scientifique de CEIS à l'Institut de Physique du Globe, pénétrer le cœur de Mars, c'est reconstituer son histoire.
Comment elle s'est formée, c'est-à-dire quelle est la quantité de fer qui constitue le noyau? Et puis pourquoi elle s'est éteinte, c'est-à-dire pourquoi il y a 4 milliards d'années, le volcanisme a disparu, les rivières se sont asséchées et Mars est devenue une planète aussi hostile que celle qu'on connaît aujourd'hui.
À leur origine, Mars et la Terre étaient deux planètes semblables. Mieux comprendre la planète rouge, c'est donc mieux comprendre l'évolution de la Terre.
Et pour en savoir plus, explication complémentaire sur franceinter.fr. La mission doit durer une année martienne, c'est-à-dire 26 mois sur notre planète Terre. Quittons Mars maintenant pour la planète Marseille, elle aussi en fusion. Et là aussi, on aurait pu mesurer les battements de cœur. Concert de klaxon, drapeau aux couleurs de l'OM cette nuit pour fêter la qualification pour la finale de la Ligue Europa. L'OM s'est fait peur, battu par Salzbourg 2-1 au match retour. But de la délivrance marqué en prolongation par l'OM. Les supporters y ont sans doute laissé quelques ongles, Xavier Monferrand.
Une défaite vaut parfois plus cher qu'une victoire, à tel point qu'il est difficile de contenir ses émotions. Le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault, en perd ses mots et peine à retenir ses larmes.
Ouais, ça va très vite, ouais.
C'est beau, vous êtes ému. La voix serrée par l'émotion, la fierté, la joie des joueurs dans le vestiaire, au bout de leurs forces, libérés comme Adil Rami et son compère de la défense marseillaise, Luis Gustavo.
On bougeait plus, on était cuit. Et il me disait, Hermano, no puedo más. Ça veut dire, mon frère, je peux plus, on était fatigué, on n'avait plus la force de chanter, on l'a fait 5 minutes, mais après, basta. C'est vrai que les jeunes, je me demande comment ils font pour avoir autant d'énergie, mais c'est normal.
Normal, après avoir vécu un tel moment, un tel scénario aussi improbable, ce but de Rolando qui propulse l'OM en finale, ce qui fait dire à son entraîneur Rudy Garcia que cette aventure dépasse largement les frontières de Marseille.
Mais je pense que tout le monde se reconnaît, une partie de la France aussi dans cette équipe. C'est ça qui est beau, le scénario était plutôt sympa encore ce soir d'avoir marqué au bout du match, mais le groupe il le mérite. Donc je suis vraiment content pour mes joueurs et pour mes supporters. Ouais.
Des supporters qui voient leur rêve exaucé, celui de disputer une nouvelle finale de Coupe d'Europe, qui plus est à Lyon comme à la maison. Salzbourg, Xavier Monferrand, France Inter.
Et voilà, et cette finale, ce sera donc dans 12 jours face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Marseille est à la fête, mais les Bleus, eux, ont sans doute perdu un cadre à un mois de la Coupe du Monde de football. Dans l'autre demi-finale, Laurent Koscielny est sorti sur une civière et en pleurs. Le défenseur français vient sans doute de dire au revoir au Mondial.
Il est 8h05, Air France à qui tout double.
On connaîtra ce soir le résultat de la consultation organisée par la direction, consultation sur les salaires. La direction de la compagnie propose 7% de plus en 4 ans, là où les syndicats veulent 5%. Et tout de suite, le PDG Jean-Marc Janaillac a mis sa démission dans la balance, a priori, sans prendre trop de risques sur l'issue du vote, Philippe Lefebvre.
En annonçant il y a 2 semaines de cela qu'il pourrait démissionner si une majorité de salariés d'Air France ne se prononçait pas pour sa proposition d'augmentation des salaires sur les 3 prochaines années, Jean-Marc Janaillac prenait un risque calculé. Car au plus fort de la mobilisation des salariés de la compagnie, seuls 34,4% d'entre eux étaient en grève. Aujourd'hui, le nombre de grévistes, tous métiers confondus, n'est plus que de 13,1% et on imagine ainsi assez mal qu'une majorité ne se dégage pas pour accepter les propositions de la direction. Toutefois, cela ne veut pas forcément dire que la grève à Air France va s'arrêter. Au syndicat national des pilotes de ligne, on indiquait même ces derniers jours que le résultat de la consultation ne changerait pas la donne. En clair, que la grève pourrait continuer. D'ailleurs, 2 jours de grève sont encore programmés, les 7 et 8 mai. Mais si le résultat de cette consultation donne largement raison au PDG d'Air France, cela mettra les 10 organisations syndicales grévistes dans une position très inconfortable, les obligeant à justifier une grève coûteuse, rejetée par une majorité de salariés. Situation pour le moins embarrassante à 10 mois des élections professionnelles à Air France.
En attendant, c'est donc une 13e journée de grève qui débute à Air France. Les 3/4 des vols devraient être assurés. À la SNCF aussi, la grève devient une sorte de routine, tout comme la litanie des prévisions du trafic. Pour aujourd'hui, comptez 40% des TER et 50% des TGV et des transiliens. Pas de routine en revanche pour ceux qui la subissent. Les usagers, contraints de s'adapter, de changer leurs horaires ou de rentrer plus tard. Entre lassitude et agacement, reportage Garcin-Lazare à Paris, Naïla de Rouanet.
Sur les quais, David, en costume bleu foncé, sacoche à la main, ne comprend pas. Sur son smartphone, le site de la SNCF indique un train à 16h. Sur les écrans, il est annoncé à 17h. Pour son travail, il fait 2 à 3 fois par semaine le trajet Vernon-Paris. Même s'il gère la situation, ça commence à devenir fatigant.
Ça n'empêche pas de travailler, c'est-à-dire qu'on peut continuer à avoir une activité professionnelle normale, mais ça oblige en fait à une adaptation, une suradaptation qui, elle, est pénible en fait. Il y a un sentiment d'agacement parce que le service qui doit être rendu ne l'est plus.
Mélika attend son transilien pour rentrer chez elle à Cormeilles en Paris 6, à 20 minutes de Saint-Lazare. Elle doit patienter 1 heure au lieu d'un quart d'heure, elle n'en peut plus.
J'en ai marre de ce comportement en fait abusif de la SNCF. C'est long sur la durée et en plus c'est usant parce que c'est 2 jours de grève, 3 jours de repos. Mais c'est vrai qu'à la fin il y a une banalisation.
Bruno Gazo, le président de la FNOT, l'association des usagers, observe 2 phénomènes chez les voyageurs.
Le premier, c'est un phénomène de lassitude assez considérable. Ça finit par être vraiment lassant. Même si l'autre phénomène, c'est que les gens trouvent de nouvelles habitudes. En réalité, il y a quand même un grand nombre des usagers qui sont extrêmement pénalisés, surtout en banlieue et en grande banlieue. Donc, moyen de transport alternatif, ça devient un calvaire.
Lundi prochain, la FNOT demandera à Édouard Philippe d'insister auprès de la SNCF pour que les usagers soient correctement remboursés, minimum 60% du montant de leur abonnement et dans toutes les régions de France.
Quand les premiers de cordée prennent la poudre d'escampette, ce dernier rapport de Bercy dévoilé ce matin dans les colonnes des Échos, on y apprend que l'exil fiscal se porte plutôt bien. 4300 contribuables gagnant plus de 100 000 euros par an ont quitté la France en 2015, dernière année étudiée. C'est 3 fois plus qu'en 2010. La Suisse reste la principale destination devant le Royaume-Uni et les États-Unis.
Il est 8h09, un moment rare hier devant la cour d'assises du Rhône.
La main tendue d'une victime à son bourreau, c'est le procès de l'agresseur du jeune marin, un étudiant aujourd'hui âgé de 20 ans qui avait été tabassé à coups de béquille en 2016 à Lyon pour avoir défendu un couple qui s'embrassait. Marin a dû subir 4 opérations du cerveau, il est lourdement handicapé. Mais hier, la victime s'est adressée à son agresseur pour dire qu'il essaierait de lui pardonner. Les deux jeunes ont échangé pendant de longues minutes, se tutoyant à la barre. « J'ai détruit ta vie », a répondu celui qui, ce jour-là, avait laissé Marin pour mort. Yves Renaud.
Tous ceux qui ont assisté à cette scène hier en sont ressortis bouleversés, à commencer par maître Frédéric Doyer, l'avocat de la maman de Marin.
C'était la première rencontre, en fait, entre le Marin et l'accusé, première fois où ils se parlaient. Et il y a eu un moment, mais qui nous a tous envahis d'émotions, hein, qui a été un dialogue entre eux. être de jeune comme on peut en avoir quand on a 20 ans. Et quand on est lié par un drame, Marin lui disant tout le mal qu'il lui avait fait, et lui parlant aussi de lui, disant « j'espère que tu vas te construire, et en l'occurrence que tu as changé ». Et on a eu une réponse de l'accusé. J'ai détruit ta vie, espace de tout commentaire.
Pour la défense de l'agresseur, le moment a également été vécu comme quelque chose de très fort qui le fera sans doute progresser. Maître Anne Guillemot.
C'était un moment très fort d'audience. Ils se sont parlé tous les deux. La présidente les a laissés se parler l'un à l'autre. À la fois, Marin a pu dire qu'il y a peu d'espoir sur l'avenir de Yanis et puis en même temps qu'il ne pourrait pas l'excuser, mais qu'il pourrait le pardonner. Qu'il vivrait toute sa vie avec l'image de Marin, comme Marin vivrait toute la vie. Sa vie avec l'image de Yanis. Il est terrorisé par ce procès, donc il a du mal à dire les choses. Il les dit plus facilement par écrit qu'il ne peut les dire oralement. Ça viendra peut-être. Il a dit ce qu'il a pu.
L'audience du jour sera celle des plaidoiries des parties civiles, du réquisitoire de l'avocat général et de l'intervention de la défense, avant un verdict sans doute dans la soirée.
Yves Renaud de France Bleu Saint-Étienne-Loire pour France Inter.
Et comment faire pour que les dents ne vous coûtent plus un bras?
C'est la question du reste à charge qu'Emmanuel Macron avait promis de réduire à zéro pour les soins dentaires, notamment pour les prothèses, souvent hors de prix. Alors ce ne sera pas pour tout de suite, d'ici 3 ans a priori, mais les négociations entre l'assurance maladie et les dentistes ont bien avancé, elles pourraient même se conclure dès aujourd'hui. Alors à quoi faut-il se préparer? Les explications de Véronique Julia.
Ce reste à charge zéro sera mis en place à partir de 2021. Il pourrait concerner 30 à 40% du volume des prothèses et devrait coûter 50 à 100 millions d'euros par an à l'assurance maladie, plusieurs centaines de millions aux complémentaires, plus encore si les patients y recourent massivement. Le reste à charge zéro sera finalement l'offre de base, comme l'explique Catherine Mojaïski, présidente de la Confédération nationale des syndicats dentaires.
Vous avez des couronnes blanches en céramique sur les dents de devant jusqu'au prémolaire. Vous avez des couronnes en métal sur les dents du fond.
Ce qu'on appelle les inlays et les onlays qui permettent de ne pas dévitaliser la dent, ils seront compris dans ce reste à charge zéro?
Non, ceux-là seront en tarif libre.
Avec un budget limité, l'assurance maladie n'a pas pu proposer davantage, d'où le regret de la profession qui aurait voulu que le reste à charge zéro concerne aussi des soins plus conservateurs et moins mutilants. Anne-Sophie Audebert est membre du CCDLI, un collectif de dentistes libéraux.
Quand le reste à charge zéro va être appliqué, je vais avoir des discussions à ne pas finir avec des patients pour leur expliquer que ce qui serait indiqué pour eux n'est pas dans le reste à charge zéro. On veut baisser un reste à charge sur la prothèse alors que nous, ce qu'on veut, c'est de ne plus en faire. C'est offrir aux patients un traitement mutilant que nous, on veut éviter. C'est complètement paradoxal.
Les dentistes voudraient aussi qu'on instaure en France, à l'image de l'Allemagne, un parcours vertueux dans lequel le patient qui surveille ses dents et va régulièrement chez son dentiste est mieux remboursé que celui qui néglige ses soins courants.
Faut-il vendre certains HLM à leurs locataires pour en construire de nouveaux? Le gouvernement est pour et la mesure figurera dans la prochaine loi logement. Mais en attendant, les élus macronistes de Paris jouent les bons élèves. Dès aujourd'hui, ils vont donc proposer de vendre 1% du parc social de la capitale. Claire Chaudière.
Permettre la vente de logements sociaux aux locataires eux-mêmes du parc social mettrait fin à une situation parisienne inacceptable, explique Jérôme Dubus, conseiller de Paris La République En Marche, défenseur de la proposition.
Il n'y a pas d'accession sociale à la propriété. Parce qu'à Paris, les logements en accession à la propriété sont trop chers. Donc, vous naissez dans votre HLM, vous vivez dans votre HLM et vous mourrez dans votre HLM. Nous, ce n'est pas notre conception de la société. 1%, c'est 2000 logements par an, c'est-à-dire quasiment rien.
Pas grand-chose, mais de quoi, avec le prix de la vente financé par effet de levier de nouvelles constructions. Mesure trompeuse, martèle Yann Brossa, adjoint en charge du logement, alors que l'objectif de 25% de logements HLM n'est pas encore atteint dans la capitale.
On va vendre les logements sociaux qui sont situés à Paris pour construire du logement social en banlieue. Ce sont des logements qui ont été financés sur fonds public. Si c'est pour au final les vendre et permettre à des gens de faire une culbute quelques années après, ça pose quand même un réel problème.
Il faut dire que la vente de HLM dans une ville comme Paris pose de nombreuses questions, acquiesce Pierre Madec, spécialiste du logement à l'OFCE.
Les ménages les plus modestes, de fait, ne pourront pas accéder à la propriété, même dans le parc social à Paris, sauf à faire des prix de vente qui sont très très bas. Et donc on est dans une équation, dans une contrainte budgétaire qui est un petit peu insolvable.
Vif débat donc en perspective, la proposition sera examinée en début d'après-midi.
France Inter, 8h14. Aux États-Unis, Donald Trump dans le temple des armes à feu.
Le président américain s'exprimera tout à l'heure devant le congrès annuel de la NRA, le lobby des armes réuni à Dallas. Moins de 3 mois après la tuerie du lycée de Parkland, à l'époque la Maison-Blanche avait promis de durcir un peu la législation sur les armes. Mais ce temps, Grégory Phillips, est bien révolu.
Il y a tout juste un an, à Atlanta, Donald Trump était venu devant la NRA pour fêter le cap de ses 100 jours passés à la Maison Blanche. Et voici le discours que le président avait tenu devant 10 000 adhérents de la très puissante National Rifle Association.
You have a true friend and champion in the White House.
Vous avez un véritable ami et un champion à la Maison Blanche. Et on fera tout pour garantir à tous nos concitoyens le droit de se défendre.
Trump revient donc cette année accompagné de son vice-président pour montrer que le soutien au lobby des armes est total. Il sera au congrès annuel de la NRA, moins de 3 mois après la tuerie de Parkland, où 17 élèves du lycée Marjorie Stoneman Douglas ont été froidement abattus. Léonore Munoz a perdu l'une de ses amies dans la fusillade. Elle fait partie du mouvement Never Again. Nous l'avons jointe hier soir à Parkland.
Le président n'est même pas venu à une seule funéraille ici à Parkland. Et là, il se rend à cet événement organisé par la NRA. Je ne suis pas surprise, mais très déçue.
Depuis le drame de Parkland, quasiment rien ne s'est passé sur le plan législatif. Donald Trump a proposé d'armer les enseignants et la NRA a vu le nombre de ses soutiens grandir. Ils seront près de 80 000 à Dallas, mais ceux qui assisteront au discours du président et du vice-président n'auront pas le droit de porter leur arme sur eux pour des raisons de sécurité. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Y aura-t-il un prix Nobel de littérature cette année? Réponse ce matin à Stockholm, où l'Académie suédoise qui délivre la prestigieuse récompense pourrait décider de passer son tour en 2018. 6 de ses 18 membres ont dû démissionner ces derniers mois, emportés par une affaire de harcèlement sexuel que certains académiciens auraient cherché à étouffer.
Et enfin, une petite info pratique si vous êtes utilisateur de Twitter.
Prière de changer votre mot de passe au plus vite, c'est le réseau social qu'il demande à ses 330 millions d'utilisateurs, dont 6 millions en France. Il n'y aurait pas eu de piratage, mais certains mots de passe auraient transité dans les serveurs de l'entreprise sans être codés, ce qui signifie qu'un employé, par exemple, aurait pu les récupérer. En tout cas, on sait déjà ce que fera Donald Trump ce matin en se réveillant.
Merci Marc Fauvel.